à Dieu. Voilà. Je voudrais méditer sur ce texte et notamment sur ce verset qui nous dit ceci. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Alors, en guise d'introduction, je voudrais rappeler que cette épître, c'est une épître qui a été écrite par l'apôtre Paul pour répondre à des questions de chrétiens qui étaient à Philippe et qui formaient l'église de Philippe. Philippe, c'est une ville qui se trouve dans le nord de la Grèce, la région de la Macédoine. Et là, il y avait une église qui a été fondée par l'apôtre Paul lors de son passage. Il y a eu des tribulations, des persécutions, mais voilà, il y avait une église établie. Et ici, l'apôtre Paul, les motive à marcher avec Christ. Et cette épître est appelée parfois l'épître à la joie, parce que à plusieurs reprises, il nous est dit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous. On peut parler également d'une épître du disciple, parce que ici, l'apôtre Paul dit « Mais oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours pour saisir le prix de la vocation de céleste qui est en Christ. Ce qui compte pour moi, c'est marcher avec Jésus, c'est de saisir Christ. » Mais je crois également que cette épître s'interroge sur la motivation qui nous anime pour servir le Seigneur. Ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Et lorsque l'apôtre Paul rédige cette épître, lui, il se trouve en prison. Il se trouve en prison à Rome. Il doit être jugé en raison de sa foi. Dans le livre des Actes des Apôtres, cela nous est expliqué en détail. Et Paul en prison se trouve face à une certaine situation, peut-être s'y attendait-il, peut-être s'y attendait-il pas, en tout cas, il se trouve face à une certaine situation, c'est-à-dire que, alors que lui est en prison, à l'extérieur, les chrétiens s'organisent et il remarque qu'il y a deux situations, il y a deux sortes, notamment de prédicateurs qui interviennent. Il y a des prédicateurs, des hommes qui se lèvent et certainement appelés par le Seigneur, qui prêchent le Seigneur, qui prêche Christ avec des dispositions bienveillantes. Ils ont compris que l'Église vit des temps difficiles, alors ils se lèvent et ils encouragent l'Église, malgré le fait que Paul soit en prison, malgré qu'il y ait des persécutions, l'évangélisation continue, ils se lèvent pour servir le Seigneur. Alléluia! Et l'apôtre Paul remarque également, et il le dit dans ce premier chapitre des Philippiens, ils disent, mais il y a également ceux qui prêchent par envie, avec jalousie, dans un esprit de rivalité, avec des motifs qui ne sont pas purs. Ils veulent rendre la captivité de Paul encore plus pénible, comme si en réalité, pour eux, la captivité de Paul, c'était l'occasion, je vais prendre sa place. On se dit, c'est un peu insensé cette façon-là, si tu veux prendre sa place, prends sa place jusqu'au bout, et va en prison aussi, vous voyez. Mais vous vous rendez compte ici que il y a des motivations qui sont tout à fait particulières. Alors, Paul a une grandeur d'âme et une sagesse excellente dans ces moments-là, parce qu'il dit, mais qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'en est pas moins annoncé, et il dit, je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Bon, gloire à Dieu, alléluia. Mais cependant, vous comprenez que même si l'apôtre Paul voit plus loin que le petit horizon de ses prédicateurs qui cherchent leur propre gloire, il y a quand même quelque chose qui ne va pas au niveau de l'état d'esprit et de la façon dont nous sommes, c'est cette mentalité dont nous sommes emprunts pour servir le Seigneur et peut-être cette question qui est là dans notre cœur. Mais avec quel état d'esprit, avec quelle mentalité « Seigneur, est-ce que je marche à ta suite ? Avec quel état d'esprit, Seigneur, je veux te servir ? Avec quel état d'esprit, je veux marcher dans tes voies ?» Et vous avez remarqué ici, l'apôtre Paul dit « Mais ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire. Il nous est dit l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Et il nous est dit ceci, « ayez une même pensée, un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. » Et c'est beau cette unité qui règne dans l'Église. Et nous voulons comprendre, « Mais Seigneur, moi aussi je veux marcher comme cela. Je veux te servir avec la bonne motivation. Comme toi, tu as servi, Seigneur. » Alléluia ! Amen. Pas dire, Seigneur, je te sers avec un intérêt quelconque, avec un mobile caché, avec voilà le désir d'en faire, mais pas trop, etc. Bref, il y a toutes sortes de subtilités. Et ici, eh bien, nous allons nous attendre et comprendre cela, servir le Seigneur avec la bonne mentalité, avec un même sentiment, afin que chacun d'entre nous, nous ayons un même sentiment, un même amour. Une même âme, une même motivation, alléluia. Et tout cela découle de notre relation avec le Seigneur, découle de notre rencontre, de l'autorité que Jésus a dans nos vies, de notre relation, de notre communion, eh bien, avec le Seigneur. Le mot sentiment, c'est mon premier point, un même sentiment, eh bien, parle également de comportement, c'est avoir une opinion, voilà, c'est voilà une question de comportement, de sentiment, de mentalité également, une capacité d'apprécier, de considérer, et la mentalité en fait, c'est ce qui va encadrer l'atmosphère, qui va encadrer, eh bien, une action. Vous savez que on peut faire la même chose avec des actions complètement différentes. Par exemple, au service d'accueil, on peut dire, ah bonjour frère, sœur, je suis heureux que tu sois là. Alors, vos mains, s'il vous plaît, hein, Véro, hein, voilà. Mais on est heureux, le bonheur. Ou alors, on peut servir d'une manière... Oh purée, c'est encore moi sur le planning. C'est mon tour. Pff, punaise. Oh là là. Bah, faut y aller, quoi. Vos mains, ils sont. Vous voyez un petit peu le genre, hein. Alors vous comprenez que il y a une mentalité là qui est un petit peu, eh bien, un petit peu particulière. Et ici, Paul dit ceci: ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Alors j'ai parlé de l'accueil, mais on peut aborder le service du ménage, même chose, hein. Servir le service de la louange, tous les services. Et Paul dit, ayez en vous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Plus justement, on devrait traduire ainsi, ayez en vous les pensées que l'on doit avoir dans le Christ Jésus. Ayez en vous les pensées que l'on doit avoir quand on est en Jésus-Christ. Il n'est pas en train de dire, essaye d'avoir par tes efforts les pensées que Jésus a. Ce n'est pas le message de l'Évangile. Il nous dit ceci, mais si tu es en Christ, tu vas avoir les pensées de Jésus qui vont t'animer pour le servir selon sa volonté. Alléluia. Et dans le bon état d'esprit. Amen. Alléluia. Et peut-être avons-nous besoin de revenir, eh bien, à ce qui fait notre identité d'enfant de Dieu. Seigneur, je suis pas présent dans ton église dans une activité pour faire des activités comme les autres, mais Seigneur, je veux exprimer ma reconnaissance et mon amour dans une mentalité changée et transformée parce que Seigneur mon Dieu, je suis aimé de toi. Alléluia. Et je veux te servir, eh bien, dans cet amour. Et mes frères et sœurs, ce que je vous dis, ça a l'air tellement évident. Et pourtant combien de fois nous avons fait eh bien, parfois, obstacle à la volonté du Seigneur, où nous n'avons pas, eh bien, eu les fruits escomptés parce que nous n'avions pas une mentalité qui correspondait à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais vous donner un exemple dans l'Évangile selon Luc, au chapitre 9e. Luc, au chapitre 9e, le Seigneur se rend, eh bien, à Jérusalem et il demande à ses disciples de préparer le chemin. Et vous connaissez ce texte au verset 51 de Luc, Luc 9, le verset 51, il nous est dit, « Lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne le reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples Jacques et Jean, voyant cela, dirent, « Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume ?» Comme Élie le fit, Jésus se tourna vers eux et les réprimanda en disant, « Mais vous ne savez de quel esprit vous êtes animés, car le Fils de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. » Ils allèrent dans un autre bourg. Amen. Et vous avez remarqué ici, bon, les Samaritains ne reçoivent pas Jésus parce qu'ils seront à Jérusalem, animosité entre Samaritains et Juifs, voilà. Et donc, ils refusent, et alors eux, ça les ulcère. Enfin, quoi, vous ne voulez pas recevoir le Seigneur? Tu ne veux pas recevoir Jésus dans ta vie? Tu ne veux pas recevoir Jésus dans ton cœur? Mais tu vas voir, le feu du ciel va te consumer sur place. Et je voudrais vous dire, en même temps, on fait passer un message qui est complètement contraire au message de la parole de Dieu. On fait dépendre l'amour de Dieu de la bonne réaction d'un homme. Et je voudrais vous dire ceci, l'amour de Dieu ne dépend pas de la bonne ou de la mauvaise réaction des gens. Dieu est amour. Qu'un cœur se ferme ou qu'un cœur s'ouvre, Dieu est amour. Il est le même, il ne change pas. Et peut-être quelqu'un résiste au milieu de nous à l'appel du Seigneur. Jésus a donné sa vie pour toi à la croix. Tu résistes, mais je voudrais te dire, combien même tu résistes, ré encore 2 ans, 3 ans, Dieu ne changerait pas dans son amour envers toi, lui ne change pas, mais fais attention parce que toi tu peux changer encore. Toi tu peux t'endurcir davantage et tu peux fermer ton cœur à l'amour de Dieu, à l'amour de Dieu. Tourne-toi vers Jésus. Mais ici, le Seigneur va reprendre ses disciples parce que c'est comme si, voilà, parce que alors tu ne reçois pas Jésus dans ta vie, mais il va te frapper. Mais écoutez, ça ne s'est pas passé comme nous, pour nous. Oui ou non? Comment ça s'est passé pour vous? Moi, je reprends le texte de la parole de Dieu. Dans l'Épître aux Romains, au chapitre 5, il nous est, regardez, et s'il y a quelqu'un vraiment qui aurait dû être frappé, châtié, puni, c'était Saul de Tarse, qui était un persécuteur, un homme violent, un blasphémateur même, nous dit l'Écriture. Et lui-même dira ceci, il parle de la grâce. Eh bien, comme personne, il dira, « Lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, mort pour des impies, à peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alléluia ! Et donc, nous voyons ici que la mentalité des disciples a dû être changé. Et nous découvrons une loi, c'est que pour que notre mentalité change, il faut que nous demeurions en Christ, que nous soyons dans cette communion avec Jésus. Je vous ai peut-être raconté cet épisode qui m'est arrivé. Je venais de vivre une rencontre, un repas un peu particulier, un peu difficile pour moi. Et le Seigneur m'a gardé, bon, le Seigneur a béni après, mais j'ai dit, mais plus jamais. C'est fini. Là, je ne ferai plus du tout contact avec telle ou telle personne. Et puis, c'était vraiment compliqué. Et puis, quelqu'un qui avait assisté à ce repas avait un peu considéré ça. Et elle m'a dit, je voudrais t'inviter. Je lui ai dit, écoute, je vais réfléchir, mais pour moi, c'est non. Hein. Okay. J'ai pas envie de vivre deux fois la même déconvenue, c'est bon quoi. Et puis je me suis mis à prier. Ça vous arrive vous, ça, de prier avant de prendre une décision? Faites attention parce que le Seigneur il est capable de changer vos projets. Hein. Et alors je me suis mis à prier. J'étais rempli de. Et puis alors j'avais raison en plus, hein. C'est que j'avais raison. Voilà. Seigneur, j'ai raison. Et là je prie le Seigneur. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais c'est comme s'il y avait des... Vous vous souvenez, les bisounours, on dit, c'est pas le monde... Mais là, j'étais avec les bisounours. Mon cœur complètement changé, transformé. Mais enfin, Emmanuel, moi, je l'aime. Mon cœur rempli d'amour, mais je n'ai pas pu dire non. J'ai accepté. J'ai dit, écoute, tu sais, il y a 5 minutes, je te disais non, mais j'ai prié. Le Seigneur m'a complètement changé. Écoute, je te dis oui, hein. Voilà, et puis le Seigneur, ça a été une clé pour bénir, hein, voilà, d'autres. On n'a pas le temps de s'étendre. Mais gloire au Seigneur, alléluia! Je crois qu'on a besoin d'être impacté par Christ. La Bible nous dit concernant les disciples de Jésus dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 3, et ça c'est la méthode du Maître, c'est la méthode de Jésus. Avant de les envoyer et bien prêcher l'Évangile, Marc 3, 13, il nous est dit ceci: il appela ceux qu'il voulut, ils vinrent auprès de lui, et ensuite il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher avec le pouvoir de chasser les démons. J'aime beaucoup cette déclaration, pour les avoir avec lui. D'abord, Jésus impacte le cœur de ses disciples et ces hommes et ces femmes impactés par l'amour de Christ vont impacter à leur tour le monde. Alléluia! Tu veux que ta mentalité change? Ton amour pour les âmes change? Ton amour pour la maison de Dieu change? Tu veux retrouver un zèle? Entre dans la présence du Seigneur et tu vas découvrir celui qui a quitté son ciel de gloire, qui t'a aimé comme jamais personne n'a aimé, qui s'est humilié jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Et lorsqu'il te parlera, tu seras comme moi, désarmé de tout ton orgueil, de tout tes préjugés, et tu diras, oui Seigneur, parle, ton serviteur écoute, je suis heureux de faire ta volonté Seigneur. Alléluia, amen. Et je crois que c'est ainsi. Eh bien, qu'on a besoin, eh bien, d'entrer, eh bien, dans une nouvelle mentalité. Mon deuxième point est donc un même sentiment, une même révélation, une même pensée, mais également un même amour. Et l'apôtre Paul insiste sur cela parce qu'il me semble que ça correspond également à un élément de son témoignage, un même amour. On est aimés tous, eh bien, de la même manière. Vous vous souvenez, Saul de Tarse, il rencontre Jésus, c'est un persécuteur, il tombe à terre, révélation de Jésus. Quelques temps plus tard, ses yeux s'ouvrent, il accepte Jésus pour son sauveur, il commence à prêcher, il est à Damas, on veut le tuer, on le renvoie à Jérusalem. Et là, Jérusalem, il veut se joindre à l'église locale, mais à Jérusalem, il est connu comme le loup blanc, hein, le persécuteur des chrétiens. Et on dit, ouais, non, mais toi, d'accord, t'as bien compris, tu veux connaître nos cachettes. Tu es là pour... Et on le repousse. Et là, vous savez, vous connaissez l'histoire, eh bien, il y a un certain Barnabas, eh bien, qui est dans cette église et qui croit ce qui s'est passé, qui écoute Paul et qui comprend que cet homme, il est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Alors peut-être qu'il a son apparence encore comme ça. Vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'avais une apparence... Mais c'était bizarre quand même. C'était bizarre mon apparence. En raison un peu d'un passé un peu tumultueux, mais j'attirais la police. Mais je vous assure, un jour, j'étais avec ma mère comme ça, je venais de rencontrer le Seigneur, elle conduit, on croise des policiers qui sont comme ça en voiture, ils me voient, ils vont directement vers moi. J'avais encore un regard, vous savez, qui en dit long. Celui-là, il respire pas que des trucs qu'il faut. Et puis, ils ont regardé qui c'est qui conduisait. Il y avait ma mère. Ah, ils ont fait demi-tour. Voilà. Voilà, ils ont dit, ah, elle est bien, elle est clean. Donc, il est avec quelqu'un de clean, c'est bon. Gloire à Dieu. Et certainement, Paul, quand il est arrivé à Jérusalem, ben, il faisait peur encore. Il faisait peur. Et il y avait besoin que quelqu'un croie, eh bien, dans l'œuvre du Seigneur, s'aimer d'un même amour. Je crois que, bien sûr, dans l'Église, on peut avoir des atomes crochus avec les uns plus qu'avec les autres, des jeunes avec les jeunes, des moins jeunes avec des moins jeunes, et puis des parcours de vie, etc., qui peuvent nous rassembler plus que d'autres, etc. Mais je crois vraiment que l'amour que Dieu nous donne les uns pour les autres, il transcende tout ça. Moi, quand je vois l'église de la Mosson, je suis heureux. On a un monzone, alléluia, un gitan, alléluia, gloire à Dieu, fier de l'être, amen. On a Joël, le Congo, alléluia, et c'est des frères, et c'est deux frères, alléluia. Et on s'aime, eh bien, d'un grand amour, alléluia. Et il me semble, eh bien, que cela, eh bien, devrait être vraiment, eh bien, une chose importante dans notre vie. On s'aime d'un amour inconditionnel parce que Dieu nous a aimés et également d'un si grand amour et ne pas faire de préférence, de privilège en raison, eh bien, de je ne sais quoi. Vous savez, nous sommes dans un monde de performance. Hier, avec les monos du GIB, parlait de cela. Apprenez aux enfants qu'ils sont aimés, quelle que soit leur performance. On est dans un monde dit tu seras aimé. Si tu as de bonnes notes, si tu as de bons résultats, tu seras apprécié si tu réponds à ces exigences-là. Et même parfois, dans la famille, on peut faire dépendre l'identité de quelqu'un, la valeur de quelqu'un, de ses actes. Tu vaux pas grand-chose, t'es nul, c'est quoi ça? 3 sur 20, t'es nul? Non, il n'est pas nul. Il n'y arrive pas. Et moi, si vous... Bon, je veux pas. Et j'ai eu des bulles aussi, hein. Voilà. Et pourtant, le Seigneur m'aime. Je rends grâce au Seigneur qu'on ait un frère comme David qui joue du violon comme il en joue. Gloire à Dieu, alléluia. Mais David est bien conscient qu'il a la même valeur devant Dieu que celui qui n'a aucun sens musical. Hein. Notre valeur, elle ne dépend pas de nos compétences, de nos talents. Et peut-être que dans le ciel, on aura une surprise de voir des frères et des sœurs qui ont été d'une fidélité, mais ça ne s'est pas exprimé dans de grandes choses. Aimer, même si nous sommes aimés, même si nous ne sommes pas performants, eh bien, selon ce monde. Et ça, c'est dans l'Église qu'on le rencontre. C'est dans l'Église qu'on doit le voir. Même quand quelqu'un a chuté, même quand quelqu'un est tombé. Dans les Actes, au chapitre 20e, il nous est parlé d'un jeune homme qui s'appelle Eutychus. Il se trouve dans le lieu de réunion. Il est tard, le pasteur prêche. C'est Paul, hein ? Il prêche, mais alors il prêche longtemps. Et à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'enseignants. Donc quand un serviteur de Dieu de cette pointure était là, allez, prêche, hein, on a le temps. Hein. Puis il va prêcher toute la nuit d'ailleurs. Mais alors Eutychus, je ne sais pas ce qu'il a fait. Enfin, lui, ça l'intéresse moyennement quand même. Hein. Ouais, je suis bien, mais il y a la fenêtre là-bas. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un à côté de la fenêtre. Voilà, ou à côté de la clim. Voilà. Et puis, au bout d'un moment, blam, il tombe. Enfin, il dort et puis il tombe. Blam. Et là, l'Église, qu'est-ce qu'elle fait ? Ouais, c'est un châtiment de Dieu. Dieu nous montre ceux et celles eh bien, qui ne doivent pas faire partie du plan de Dieu. Il les met dehors. Oh, heureusement qu'ils ne réagissent pas comme ça. Là. Mais, vous savez, des fois, là, c'est une mentalité hein, qui peut s'installer. Hein. Il a bien eu ce qu'il mérite. Ben non, pour Paul, pour le Seigneur, eh bien, ce garçon Eutychus, c'est un homme, un garçon pour qui Christ est mort. Et quelle valeur ! Et il va descendre, il va le prendre dans ses bras. Un miracle est là, il y a une résurrection. Son âme est encore en lui. Et Paul, qui lui-même avait été ramené par Barnabas, réinstalle Eutychus au milieu de l'Église. Ils reprennent tous ensemble la Sainte Cène. Et cette fois-ci, Eutychus, il est au premier rang. Et il prêche jusqu'à l'aube, l'apôtre Paul. Mais je me dis, mais quel amour, alléluia ! Vous savez, j'ai entendu avec Guillaume un témoignage d'une sœur qui est là. Alors, je ne vais pas la citer, mais elle m'a dit qu'elle avait rencontré le Seigneur dans les années 60, s'est mariée, et puis il y a eu un décrochage. Et pendant une trentaine d'années, hein, et la sœur, elle est là, hein, pendant une trentaine d'années, elle n'est pas venue à l'église. C'est long, hein ? Pendant 30 ans, la même sœur, qui était son amie, du tout début, n'a jamais lâché la main. Toujours téléphoné, toujours invité, toujours se voir. Et au bout de 30 ans, cette sœur, elle est là parmi nous. Alléluia ! Et elle marche fidèlement avec le Seigneur. Amen ! Alléluia ! Ayant un même amour, mais c'est extraordinaire ! Alléluia ! Et peut-être quelqu'un est-il tombé ? Alors on ne veut pas t'encourager et te dire que l'amour du Seigneur, il t'autorise à faire n'importe quoi, bien sûr, mais on veut te relever. Et peut-être quelqu'un traverse-t-il des crises personnelles, peut-être une chute spirituelle, mais le Seigneur veut te relever, il ne veut pas t'abandonner, il ne veut pas te laisser dans cet état-là. Il y a encore un après avec le Seigneur. Il est la résurrection et la vie. Il est celui qui relève, il est celui qui pardonne. Alléluia. Notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Amen. Alléluia. Mais il était beau ce chant que Guillaume a chanté. C'est toi qui rends mon cœur pur. Alléluia. Tu nous donnes un cœur pur. Alléluia. Amen. C'est un effet de ta grâce, Seigneur Jésus. Et ce matin, nous voulons dire, Seigneur, je ne veux pas aimer un tel parce qu'il est performant ou pas performant, parce qu'il comprend ta parole ou il ne la comprend pas ou je ne sais pas quoi. Mais Seigneur, je veux l'aimer comme toi tu m'as aimé alors que je ne comprenais rien du tout. Seigneur, je veux aimer ce frère, cette sœur parce que toi-même, tu l'aimes. Alléluia ! Et si j'ai besoin que ma mentalité, elle change, eh bien qu'elle change afin que nous puissions grandir. Et puis, je voudrais vous dire également ceci, c'est que pour toutes celles et ceux, peut-être, qui se disent, oui, moi, la vie chrétienne, voilà, c'est bien, je suis sauvé, après, le reste, je m'en occupe. Fais attention à ce genre de... Parce que quand on connaît l'amour que Dieu a pour nous, mais on a envie de lui obéir. On ne se sert pas de cet amour pour dire, de toute façon, si je pêche, ce n'est pas grave, il me pardonnera. Enfin, si vous rentrez dans ce système-là, vous n'avez pas réellement rencontré l'amour de Dieu. Parce que quand on aime quelqu'un passionnément, déjà sur la terre, un gars qui tombe amoureux d'une fille, mais il fait tout pour lui plaire, pas pour lui déplaire. Vous comprenez ? Mais alors, à l'égard de Dieu, c'est la même chose. Seigneur, mais et on est les plus malheureux de tous les hommes si on attriste le Saint-Esprit. Oui ou non ? Parce que ce qu'on veut, c'est servir le Seigneur. Mon Dieu, je ne suis pas sauvé par mes œuvres, je suis sauvé par la foi, mais par mes œuvres, je vais t'exprimer mon amour. Alléluia, mon obéissance. Amen. Gloire à Dieu. Alors, l'autre point que je voudrais apporter, une même pensée, un même amour, une même âme. Dans le texte, il nous est dit, est-ce que c'est bien celui-ci ? Je reviens avec vous, hein, Philippiens. Mais en grec, c'est la même chose. Cœur, âme, ici, il nous est bien dit, hein. Oui, une même âme, une même pensée, une même âme. Le mot âme décrit la personnalité, le souffle de vie, l'âme, voilà, qui ne meurt pas, le corps meurt, mais l'âme. C'est aussi l'identité profonde de quelqu'un. Et ici, il nous est dit une même âme. C'est-à-dire que c'est le siège des affections. Et je comprends maintenant une chose, c'est que ce qui peut m'attrister à moi, ce qui peut me réjouir à moi, mais c'est la même chose pour mon frère, pour ma sœur. Ce qui m'attriste, ça peut l'attrister. Ce qui le réjouit, ça peut eh bien, également le réjouir. Et nous voyons que le Seigneur nous transforme et l'amour du Seigneur nous amène. Eh bien, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de ta force, ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et on est en train de regarder l'autre, non plus comme un passant, mais vraiment comme un frère, comme une sœur, dans lequel, mais je vais faire attention également à ce que ma conduite, ma façon de vivre, eh bien, n'est pas une action sur également son affection. Il y a quelque temps en arrière, j'ai reçu une leçon de la part d'une sœur. C'est ici même. J'ai dû reprendre quelqu'un et la personne a surréagi par rapport à la situation. Et c'est vrai que peut-être la façon dont je m'y étais pris, elle n'était pas préparée, peut-être un petit peu, pas brutale, mais presque quand même. Mais enfin, pas tant que ça. Mais, et il y a une sœur qui m'a parlé, une sœur qui n'est pas là et qui est ancienne dans la foi. Elle m'a dit, mais tu sais, Emmanuel, on est dans l'Église. Et dans l'Église, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une rudesse comme ça. Alors, dans la rue, c'est la rue. Tu te blindes. Dans le travail, les collègues, des fois, ils ne se gênent pas. Hein. Voilà, hein, c'est compliqué. Parfois, même, il y a la vie de famille, des rassemblements de famille, au secours. Qu'est-ce que je vais me prendre ? Hein, voilà. Mais dans l'Église, ça devrait être différent. On est des frères et des sœurs. Les paroles qu'on devrait tous s'échanger, c'est des paroles d'encouragement pour réjouir, pour s'affermir dans la foi. Et on est une même âme, c'est-à-dire une même affection. D'ailleurs, l'apôtre Paul le dira dans Romains 12, au verset 15, « Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui... » On est une même âme. Quand on a quelqu'un qui quitte la Mosson, même si on ne va pas à Lille, on est triste quand même. Voilà. Bon. Que le Seigneur te bénisse, Eva. Mais le Seigneur veut nous apprendre à ça. Je relisais Exode 22, 21. Tu ne maltraiteras pas l'étranger et tu ne l'opprimeras point, car vous avez été étrangers dans le pays d'Égypte. Ça m'a fait penser une chose, c'est que Dieu est capable de nous faire passer par des temps d'affliction pour qu'au travers de la consolation que nous éprouvons dans les temps d'affliction, nous puissions consoler ceux qui sont dans la tristesse. Et cela, eh bien, est contenu dans la deuxième épître aux Corinthiens. Allez, on va le lire si vous voulez bien. 2 Corinthiens, au chapitre 1er. Peut-être que quelqu'un se dit, à l'heure actuelle, je ne comprends pas pourquoi je souffre, Seigneur. Pour la sanctification, mais je prie, je t'aime, Seigneur, je témoigne. Mais il y a une situation douloureuse par laquelle je traverse et je ne la comprends pas. Qu'est-ce qui m'arrive, Seigneur ? Et regardez ce que Paul dira, chapitre 2, verset 1er, verset 3. Pardon, 2 Corinthiens 1, 3. Voilà pour la vidéo. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans la même affliction. C'est-à-dire que l'apôtre Paul, qui est en train de souffrir pour la diffusion du message de l'Évangile, il est persécuté, mais il se rend compte d'une chose. Oui, je suis persécuté, il y a de l'opposition, mais Dieu me console, mais je suis en train de me rendre compte qu'il y a d'autres frères qui passent par, et d'autres sœurs qui passent par les mêmes situations. Mais moi, comme j'ai eu cette consolation, j'ai été impacté par le Seigneur, alors je peux aussi les consoler. Et peut-être que quelqu'un a besoin de passer par un temps de souffrance pour comprendre ceux qui souffrent. Parce que ta place, elle est dans l'Église. Elle n'est pas ailleurs. Un vieux pasteur me disait ceci dans l'assemblée où il était. Il y avait un monsieur qui était un boucher, et rougeau, costaud. Et il y avait une petite femme là qui venait aussi à l'église. Elle était toute maigrelette. Elle avait toutes les maladies de la terre. Et alors, elle se plaignait toujours avec cette petite voix. Et puis quand il y avait le boucher, voilà, faites comme moi, mangez de la viande. Voilà. Et alors, il exhortait à coups de hache, hein, voyez, ou à coups de... De hachoir, voilà. C'était pas d'exemple. La pauvre, elle était comme ça. Et puis un jour, sa femme téléphone au pasteur, elle dit venez vite, venez vite, venez vite. Et le boucher était sur son lit en train de gémir une colique néphrétique, voilà, qui était là. Et là, le pasteur a eu tout de suite cette pensée. Et elle venait du Saint-Esprit. Seigneur, tu es en train de lui faire comprendre un message, de lui faire comprendre quelque chose. Il y a des frères, il y a des sœurs qui souffrent dans l'église. Ce n'est pas parce qu'ils souffrent qu'ils sont dans la défaite, mais ils souffrent. Et il faut être avec eux. Vous voyez ? Dans l'assemblée, parfois, il y a des jobs. Des gens, je crois qu'on en parlait tout à l'heure, certains connaissent des situations dans leur vie. C'est compliqué quand même, hein, quand il y a... des drames terribles, et puis il y en a un, il y en a un, deux, etc. On dirait, mais Seigneur, ce sont des vies compliquées quand même. Hein, et on se souvient des amis de Job qui ont essayé de consoler, enfin, ils n'ont pas consolé. Ils ont dit, si t'arrives du malheur, c'est parce que t'as péché quelque part. Confesse ton péché, tu seras rétabli. Mais rien du tout. Et puis il se rebelle. Il a raison de se rebeller, c'est pas vrai. Et il aime le Seigneur, et il sera de ceux qui, une fois rétablis, prieront pour que Dieu, eh bien, pardonne à ces hommes qui ont été, eh bien, ainsi. Mais il me semble que nous aussi, qui sommes une même âme, les uns avec les autres, eh bien, nous avons besoin, eh bien, de considérer l'autre, non pas simplement quand tout va bien, mais lui dire, écoute, ça va pas bien, mais voilà. Et peut-être un frère, une sœur qui est passé par le deuil, qui est passé par telle maladie, dire « Je sais ce que ça veut dire. Le Seigneur est avec toi. Il a été avec moi. Jésus, Dieu s'est fait homme. Lui-même qui sait toutes choses est descendu jusque sur cette terre. Il sait ce que ça veut dire mourir. Il sait ce que ça veut dire souffrir, être trahi, être abandonné. Et c'est pour cela qu'il est un soutien. Alléluia. Lorsqu'il y a le deuil, lorsqu'il y a toutes ces choses qui peuvent arriver. Et nous voulons dire, Seigneur, merci, parce que tout cela ne nous amène pas simplement à larmoyer, mais à dire, je ne suis pas seul. Il y a le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit, il agit aussi au travers d'hommes et de femmes. Alléluia ! Amen ! Puis on termine, et c'est mon dernier point. Une même motivation. Le texte que nous avons lu concernant Jésus se termine en disant ceci, eh bien que tout genou fléchira devant le Seigneur, que Jésus, voilà, je reprends le texte, Nous disons, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de genoux, au nom de Jésus, pardon, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Parce que notre motivation est la motivation du Seigneur. Et ce qui devrait être notre motivation, mais c'est que Dieu soit glorifié. Moi, je crois que quand il y a des frères et des sœurs qui pleurent avec ceux qui pleurent, Dieu, il est glorifié. Regardez comme il s'aime. Qui c'est qui t'appelle encore ? Eh bien, c'est une chrétienne de l'Église. Tac. Et là encore, ben, c'est une autre. Ah ben là, c'est quelqu'un. Mais vraiment, t'as beaucoup d'amis. Hein. Tu sais que dans le monde, quand quelqu'un souffre, prend des nouvelles de temps en temps. Merci Seigneur qu'on puisse prier H24. Alléluia. Et dire Seigneur, interviens, pose ta main. Alléluia. Nous avons cette même révélation. Nous avons un sauveur merveilleux, Jésus qui a donné sa vie pour nous. Nous sommes remplis d'un même amour et nous ne nous jugeons pas, nous nous soutenons pour avancer, faire des progrès dans la sanctification. Nous avons une même âme, nous voulons nous rendre serviteurs les uns des autres. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, alléluia. Nous sommes son Église et plaise au Seigneur que quand Jésus viendra chercher cette Église, il puisse dire « c'est une Église qui me ressemble ». Alléluia, et que l'on puisse reconnaître Christ au-dedans de nous. Alléluia, dans cette assemblée. Comprenez bien que l'Église virtuelle, derrière un écran, ou l'Église universelle qui dit « il n'y a pas besoin de locaux, on est tous séparés comme ça, un peu comme des papillons un peu partout », ce n'est pas quelque chose qui a lieu d'être dans le plan de Dieu. Parce qu'il faut se voir, il faut se connaître, il faut se parler, il faut se rencontrer, prier les uns pour les autres. Alléluia. Alors dans la suite de l'année qui est à venir, on va essayer de développer, on va reprendre des programmes, voilà, où on va pouvoir se retrouver, on va reprendre la GAP, les frères et sœurs, on va reprendre des réunions de maison, on va prendre des jeux détente, jeûne et prière tous ensemble, on va rétablir ça pour que nous puissions nous reconnecter les uns aux autres. Alléluia, amen. Alors ça ne veut pas dire qu'on est déconnecté, on a un WhatsApp, mais enfin c'est pas pareil, hein. Voilà, hein. Et on veut prier le Seigneur, amen. Alléluia, Seigneur, je veux chercher tes intérêts et avoir cette motivation, Seigneur, que tu sois glorifié, que ton œuvre soit faite dans cette assemblée. Amen. Vous l'avez bien compris le Seigneur quelques instants ? Peut-être dire, Seigneur, je veux retrouver la bonne motivation pour te servir. Un même amour, une même âme, une même pensée. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te louons, Seigneur Jésus, pour ce grand amour, Seigneur, dont tu nous aimes. Seigneur, je veux te louer, Seigneur, parce que, Seigneur, c'est merveilleux l'Église de Jésus-Christ. Seigneur, il y a, Seigneur, mon Dieu, des lieux où les gens essayent de se rassembler, de se retrouver pour se comprendre autour d'un ballon rond, autour, Seigneur, de repas. Seigneur, et il reste vide, il manque quelque chose, il manque ta présence, Seigneur. Mais l'Église, elle est là, alléluia! Seigneur, c'est ce rassemblement d'hommes et de femmes qui ont connu l'amour de Jésus, qui ont été rachetés par le sang de l'agneau. Alléluia, Seigneur, et nous pouvons témoigner de l'amour de Dieu. Et Seigneur, ça ne devrait pas être quelque chose de difficile d'aimer, d'avoir une même âme, une même pensée, un même amour. Parce que Seigneur, c'est toi qui nous as aimés le premier. Seigneur, celui qui nous donne la matière pour aimer, c'est toi. Seigneur, tu nous as aimés le premier, c'est pourquoi nous t'aimons. Alléluia. Et je te prie, Seigneur, peut-être, ce matin, Seigneur, pour un bien-aimé, Seigneur, qui a besoin d'être reconnecté avec toi. Peut-être une chute, peut-être, Seigneur, une rébellion, peut-être un égarement. Seigneur, le tien à distance est loin de ton amour et il ou elle se refroidit. Mais ce matin, Seigneur, je te prie, afin que, Seigneur, il y ait encore la révélation de ton amour, que tu réchauffes ce cœur. S'il y a besoin de demander pardon, demande au pardon à ton Dieu. Le voile a été déchiré. Jésus a souffert pour toi à la croix. Et il veut te rétablir. Il veut que tu reprennes le chemin de la victoire. Que tu triomphes des tentations, peut-être d'une addiction, de ton péché. Mais ne dis pas qu'il ne t'aime pas. Il t'aime. Son amour ne dépend pas de ce que tu fais. Son amour dépend de lui-même. Dieu est amour. Ne rejette pas cet amour. Laisse-toi aimer et tu trouveras aimer. Et peut-être un frère et une sœur qui s'est enfermé dans une forme de légalisme, peut-être. Et si tu retournais à ton premier amour ? Quelques secondes, là, sous le regard de Jésus, quelques secondes, vous ouvrez votre cœur. Alléluia, Seigneur. Gloire à Dieu. Pour te servir, Seigneur, vivre.